Sans Contrôle, le podcast 100% FC Nantes.
Loco Pelleros, Pelleros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table... Loïc Folio, West France.
C'est possible.
Et tout le monde l'attend.
Allez, c'est maintenant. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan.
Wouh !
Tu danses à chaque fois.
David Filippo, West France. Un podcast présenté par... Simon Rongoat, Eat West.
Salut les amis, salut David Filippo.
Salut.
Belle brioche hein, aujourd'hui. Franchement, t'as bien chanté. David
D'ailleurs, je m'engage à danser si on fait ça un jour en public.
Évidemment, évidemment. Voilà. Très attendu
si
par
jour,
nos auditeurs.
Fait.
David qui nous a appris récemment que Kader Bamba écoutait Sans Contrôle de temps en
oui.
temps. Il corrige même certaines de tes saucisses. Hein. Il t'appelle
ouais.
directement.
Bah oui, j'avais fait un correctif d'ailleurs.
Il est très attentif.
Ouais.
Notre auditeur est donc un sauveur hein, sur ce week-end. On va en reparler bien sûr. Salut Pierre Arnaud Barre.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Peut-on être à la fois chauve, médiocre pendant 90 minutes et l'auteur du sauvetage qui change tout à la 90e?
Bah alors là, je le contredis tout ce que tu dis. Il a pas été médiocre pendant 90
minutes. Ah, il était très moyen.
On était avec Loïc.
Nicolas Palois,
à chaque
bien
fois
sûr.
Qu'il touchait le
on
ballon.
On avait compris.
À chaque fois qu'il touchait le ballon, on s'enflammait. C'était extraordinaire.
Bah, il y a Pierre Arnaud qui lançait une haul là.
C'est quand même le seul mec seul. Qui fait une tête de le ballon par à 30 mètres. Enfin, c'est
bon, on va en parler.
Super.
On va en parler, mon pape. On va juger la prestation de Palois.
Bah, génial,
salut Loïc Folio.
Salut.
Messieurs, Loïc était déjà au Havre en mai 2000 lors du maintien miraculeux des Canaries en D1.
J'étais au Havre à l'occasion de la création du club en 1872.
Ah oui, bah oui.
Le Kader Bamba de l'époque s'appelait
Marama.
Marama Vairua.
Qui était Vairua.
Le petit ouais, pagayeur légendaire
oui.
qui avait marqué
ouais,
son premier but en pro
Deschazeaux.
Le jour de ses 21 ans. C'était Deschazeaux à l'époque. Tu ouais. es donc, Loïc, un faiseur de miracles. Mais uniquement en Normandie. Donc,
uniquement,
il faut
c'est
te croiser
ça,
là-bas. Quoi.
Et il y avait déjà eu un gros sauvetage juste avant.
Oui, de Michael Landreau sur la frappe de Gravelaine.
Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
Ce mortel.
À Gainsbourg déjà.
Bien sûr.
Qui me vient. Quand je suis.
Ce mortel ennui. On arrête là parce qu'on va déprimer.
Et t'as pas fait tu fais pas ton intro avec Eo, fais pas la gueule, non ?
Si, si, carrément.
Ah,
t'as
oui,
fait,
tu
ouais.
vas le faire.
Ouais, on n'a pas encore fait le programme PAB.
Ouais, il faut que tu suives.
T'as
un peu.
Petit souci de
ouais.
connexion là.
Non, mais
pardon.
Bah, merci à tous, à la semaine prochaine. Merci, c'était super.
Le mortel ennui de Gainsbourg, parce qu'on franchement, on s'est tous flingué le poulet du dimanche midi pour s'infliger un Le Havre-Nantes digne des bons gros 0-0 de l'ennui. Mais ça, c'était avant que la lumière ne jaillisse du pied de Kader. On en parle dans ce 33e épisode, saison 5 de Sans Contrôle. Le programme
merci.
PAB. La victoire. Arracher une extrémis au Havre est-elle miraculeuse ou méritée? Il faudra vous prononcer. Kader Bamba en sauveur, quel paradoxe.
Miraculeuse.
On va s'arrêter sur le cas de l'attaquant des Canaries, Bamba, et sur les choix surprenants de Comboiré au coup d'envoi. Un succès synonyme de grand pas vers le maintien ou pas, selon vous? Enfin samedi, c'est derby, Nantes-Rennes, pour vaincre le signe indien, 8 défaites consécutives à la Beaujoire. Est-ce que c'est le bon moment pour jouer les Rennais qui plongent dans la crise? On va en parler avec un confrère de Rennes. Comment faire sans Abline devant, puisqu'il ne jouera pas. Et quel accueil pour Ludovic Blas, tiens, qui fera son retour pour la première fois à la Beaujoire. Enfin, notre confrère Alexis Vergeau vient de sortir un livre dont vous avez sûrement entendu parler. Il était une fois la Beaujoire, 1984-2024. Il sera avec nous dans le podcast pour fêter ses 40 ans de Beaujoire, avec tout ce qu'il faut en anecdotes. Et je vous attends là-dessus. Souvenirs, petites histoires, grandes aussi, du stade des Jaunes et Verts. Allez, messieurs, c'est la 150e de Sans Contrôle aujourd'hui. Soyons à la hauteur de l'événement.
Eh hey, oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non?
Hey, oh.
Sans Contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
On décortique la victoire au Havre qui pourrait tout changer sur cette fin de saison du FC Nantes.
Maria Carré. When you believe.
Elle est pas toute seule. Maria Carré.
Chantal. Non, pas.
Marie Carré, Whitney Houston.
Il l'a lu sur mes lèvres.
You
ah non, je te prends pas.
J'ai quand même dit Whitney Houston en intro, avant qu'ils disent Maria Carré.
C'est pas vrai.
Mais oui.
Eh ben, tu marques le point,
Loïc. S'affirmer, tu vois, faut non, parler plus fort, Loïc.
Tu marques le point,
est-ce
on n'a pas de VAR ici, donc de toute façon, on peut pas vérifier.
Est-ce qu'on a un Twitos ou un Ixos, je sais pas comment on appelle ça maintenant, qui compte tous les points qu'on gagne au blind test?
J'imagine
comme
que
une
oui.
participation
j'imagine,
à l'émission.
J'imagine que oui, évidemment. Évidemment. When you believe, Maria Carré et Whitney Houston. Les miracles arrivent pour ceux qui y croient, chantent nos deux artistes. La victoire au Havre permet aux Nantais, en tout cas, de faire une excellente opération dans la bataille pour le maintien. On va y revenir, mais d'abord, est-ce qu'elle est vraiment méritée? parce qu'ils y ont cru jusqu'au bout, ou bien est-ce qu'elle est miraculeuse, cette victoire, parce que Le Havre aurait pu gagner ce match-là, David ?
Non, un match nul aurait été logique. C'est pas une victoire miraculeuse. Je trouve que Nantes a eu des occasions et je trouve qu'on a tendance à les oublier, surtout en première période, deux tirs.
Ouais, surtout en première mi-temps.
Non, mais bah, ça reste des occasions quand même.
Moi, je dirais des points,
des points chauds. Des situations chaudes. Non.
La vraie occasion, c'est Abeline en deuxième mi-temps.
Abeline en deuxième période et Douglas Augusto. Loïc, on vient de la regarder. Donc, ça fait quand même trois occasions, pour, si on compte
en
les deux tirs.
En 90 minutes, c'est chouette.
En 90 minutes. Mais le Havre, c'est à peine mieux. Il y en a deux ou trois pareils.
C'est entre mérité et miraculeux. On est dans
entre les deux.
On est dans le mou. On est dans le mou avec David.
Dans le mou.
Toi, Pab.
On est quand même pas loin du miracle. Ouais. Quand tu as parlé de match au bout de l'ennui, surtout la dynamique de la deuxième mi-temps, c'est plutôt Le Havre qui est proche d'ouvrir la marque.
Et d'ailleurs, il y a Douglas Augusto.
Oui, mais 90e, David. Oui, mais pourquoi Douglas Augusto, il a son action à 90e? Parce que tu as Nantes qui est tellement en difficulté que Le Havre pousse, se découvre et c'est Nantes qui en profite.
Loïc, avant d'écouter Comboiré sur le sujet.
Bon, je ne veux pas dire que c'est un braquage, mais enfin, c'est quand même une victoire très, très heureuse. Ça a mérité un gros 0-0. C'était un match de bas de tableau de Ligue 2. Franchement, il faut être honnête. Tu parlais du poulet.
Oh, la Ligue 2, c'est pas bon gâché. Quand même.
Mais ouais, c'est pas terrible.
Non, je sais que tu étais supporter de Saint-Etienne, mais franchement, c'est.
Franchement, c'est. Encore une fois, c'est pas un miracle, mais enfin, c'est très, très, très heureux de la part pour les Nantais, en tout cas.
On est sur un mini miracle. Hein. Je suis sur la même ligne. On va écouter Comboiré nous en parler. Le Havre aurait pu gagner, il le dit, le coach.
Le Havre aurait pu gagner. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On a fait basculer la réussite de l'autre côté. Donc, je tiens, bien sûr, à féliciter les joueurs. Puis à leur dire comment je suis fier donc, de ce qu'ils ont montré. Parce que j'ai beaucoup insisté sur l'endurance mentale. Les fins de match étaient souvent compliquées. On prenait beaucoup de buts. À l'image du dernier match à Lyon, d'ailleurs. Hein. Et là sur la durée, on a été capable de repousser nos limites, d'aller chercher donc 3 points qui viennent de nulle part, parce que je me serais contenté du 0-0, hein, très, très franchement.
Ces 3 points qui viennent de nulle part, nous dit Comboiré, il est sur ce que venait nous dire hein, Loïc et Pab.
Ouais, mais de toute façon, ce sont deux équipes, Le Havre et Nantes, qui sont en souffrance. Là où on peut rejoindre Comboiré, c'est sur le fait de ne pas avoir plié au premier coup de vent dans le dernier quart d'heure, comme c'était le cas régulièrement ces derniers matchs. Mais c'était tellement, tellement faible en face qu'une nouvelle fois, il faut relativiser.
Je pense qu'il y a vraiment des équipes totalement inhibées par l'enjeu, quoi. Ouais. On a vraiment l'impression que c'était des équipes qui cherchaient avant tout à ne pas prendre de but. Et puis 0-0, je crois qu'il le dit, hein, Comboiré, et je sais que certains au club se seraient contentés d'un 0-0, un point contre un concurrent direct. C'était finalement peut-être pas une mauvaise opération, même si le calendrier est compliqué.
Avant de parler des conséquences, on est vraiment sur le scénario du match.
Voilà, sur ce que tu dis des dynamiques, David, on l'a vu avec les journalistes, parce qu'on travaillait après le match pour faire nos articles avec du coup nos confrères du Havre. Eux, ils étaient là, comment on a perdu ce match déjà ? Et ensuite, ils disaient, mais c'est pas la première fois. Ils étaient exactement comme
ça leur arrive souvent,
comme nous, quelque part, à suivre Nantes, à dire le nombre de points que tu perds en route. Et Le Havre, ils ont perdu nombre de points.
Non, mais Le Havre n'a pas non plus surclassé le FC Nantes.
Non, mais attendez,
j'ai l'impression que tu dis ça, en fait.
Non. Le Havre, ils ont même fait que défendre une partie du match.
Autant Nantes a gagné 2 points sur ce but dans les arrêts de jeu, autant Le Havre en a perdu un gros. Voilà, c'est tout. Ils ont perdu un point qui est pour eux important.
Un point qu'en vaut 3, parce que tu en donnes aussi 2 supplémentaires à un adversaire direct qui est le FC Nantes quand t'es à vrai.
Ils auraient pu prendre une grosse bouffée d'oxygène.
On va revenir sur le spectacle, les choix de Comboiré, mais focus quand même sur l'homme du match, Kader Bamba, sauveur du FC Nantes sur cette rencontre. Son but d'abord, c'est un petit bijou de précision quand même. Qui veut me raconter son but à Kader Bamba?
Exceptionnel. Les gars, vas-y, commentez le basico en plus.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même Le Havre qui se découvre, parce que ça part au départ d'une saucisse quand même de Jean-Kevin Duverne.
Exactement.
Il a regardé avec une grosse saucisse de Jean-Kevin Duverne.
Une de plus, j'ai envie de te dire, mais on va en parler tout à l'heure.
Ça a été son match. Donc voilà, passe en retrait, un peu complètement raté, contrôle raté, il se rattrape n'importe comment. Et du coup, Le Havre se dit, voilà, on va pousser. Donc il pousse, et là t'as Moussa Sissoko qui se bat dans les pieds pour récupérer le ballon à la limite de la faute.
Il gagne deux duels. Il est déterminant, Sissoko.
Voilà, il est déterminant, et là tu vois la hargne pour récupérer ce ballon-là.
Comboiré a cru que c'était Coco d'ailleurs en conf après. Marcus Coco récupère un ballon.
Le ballon arrive sur Pedro Chirivella le long de la ligne de touche au niveau de la ligne médiane, et lui il lance Kader quelques mètres devant.
Une touche.
Oh, une touche. Important. Et Kader Bamba, lui, il est sur la gauche, juste après la ligne médiane. Et en fait, il avance. Il profite de l'appel.
Il fait quasiment 30 mètres balle au pied, mais ce qui est incroyable.
Il est capable de ça, parce que lancer, il élimine qui veut, Kader Bamba.
Il n'a même pas eu besoin d'éliminer.
Si, il élimine un joueur.
À peine, oui. Peut-être au tout début, mais c'est pas très
bien. Sur la fin,
il est très propre techniquement sur sa conduite de balle et sur sa frappe, parce qu'elle est vraiment millimétrée, quoi.
Elle est chirurgicale.
Non, elle n'est pas forte, mais elle est au ras du poteau. Je ne suis pas sûr que le gardien Avrès soit exempt de tout reproche là-dessus. Mais c'est surtout la passivité de la défense Avrès. Il y a 4 défenseurs Avrès dans un rayon de 5 mètres, on va dire, autour de Kader Bamba.
Il recule.
Et d'ailleurs, le ballon passe entre les jambes de 2 Avrès.
Et il l'accompagne plus qu'il ne le presse.
Ouais, clairement.
Il y a une vraie passivité normande.
Et puis derrière, on a un gardien de but...
Ça frappe quand même soudaine. Attention, elle est ras du poteau, elle est sèche, c'est pas mal. Hein.
Ouais, mais je pense qu'il y a un...
Elle est un peu soudaine parce que nous, on se disait qu'il pouvait encore avancer.
Peut-être que 80% des gardiens de Ligue 1
ont
la main, je
tu
pense peuvent la sortir.
Dedans,
je le trouve
pas,
un peu
David.
Juste d'espace.
Tu comptes Alban ou pas? Il fait partie des 80% ou pas?
Dans les 80% qui la sortent ou pas?
Pas en ce moment.
Kader Bamba, il y a quelques semaines, quelques jours peut-être, n'aurait pas tenté cette frappe. Mais il en a parlé avec Comboiré qui lui a dit à l'entraînement « Prends ta chance Kader, il faut que tu sois plus décisif. » Écoutez Kader Bamba.
Ces derniers jours, c'est vrai qu'il me dit qu'il faut que je frappe plus, il faut que je marque plus à l'entraînement aussi. Donc c'est ce que j'essaie de faire et là j'avais une fenêtre donc j'ai tiré. J'aime pas être trop en colère parce que des fois ça me joue aussi des tours. J'arrive pas à me concentrer mais c'est vrai que quand je suis piqué, c'est vrai que j'ai réagi souvent bien. Donc.
Mais qu'est-ce qui te manque pour être plus qu'un remplaçant, plus qu'un jogger?
Pierre disait que t'étais un petit moteur.
Ouais, on me l'a souvent dit, mais je suis pas du même avis. Mais on me l'a souvent dit. Et après, c'est vrai que quand on enchaîne les matchs, c'est beaucoup plus facile de durer dans un match, de faire 70-80 minutes. Mais quand on joue pas, c'est beaucoup plus facile pour un joueur. Peu importe son niveau physique, pour toujours, c'est compliqué. Mais petit moteur, non, je suis pas du même avis. Après, c'est son propre avis.
Alors, du coup, selon toi, c'est de la constance, de la régularité.
De la régularité et des stats, comme le coach dit, il faut que je marque plus.
Après, tu mets des buts importants, parce qu'on se souvient de ton but au Vélodrome.
Ouais, mais il vaut mieux marquer plus que mettre des buts importants tous les 2-3 mois. Donc c'est vrai qu'il faut que je m'améliore sur les stats et marquer beaucoup plus, et je pense que ça m'aiderait bien.
Ah, s'il avait des stats, Kader Bamba, il n'aurait pas cette carrière-là non plus. Hein,
il ne serait pas à Nantes.
Il va avoir 30 ans quand même le mois prochain.
Dans
15 jours. Oui, tu as raison. Non, mais il a 30 ans, il n'a jamais réussi à s'imposer dans un club au plus haut niveau, où il est arrivé d'ailleurs tardivement, on pourra revenir là-dessus. Il est à 2 buts cette saison, il est à 19 apparitions, je crois.
3 entraîneurs.
C'est le remplaçant qui a le plus de temps de jeu.
Une seule titularisation.
Et c'est le remplaçant qui a le plus de temps de jeu en Ligue 1.
Non, mais je dis trois entraîneurs en rigolant, mais trois entraîneurs qui se disent « Ah, Bamba, non, je le ferai rentrer un quart d'heure de la fin. Voilà. »
Quand il dit que c'est... Enfin, on s'en vexait quand vous lui dites, c'est Florian qui lui dit Cazola de France Bleu, c'est un petit moteur.
Et parce qu'Antoine Bamba, on avait parlé en cours.
Mais pourtant, les entraîneurs en parlent, le disent. Alors, il a du mal, évidemment, à accepter qu'on dise ça de lui. Je pense que c'est pourtant un peu une réalité. Il peut difficilement tenir sur la distance.
On l'a vu l'année dernière commencer un match et s'éteindre au bout d'une demi-heure. Une demi-heure.
C'est ça. Ouais. Ouais.
Mais après, on est tous d'accord pour dire qu'il a du ballon.
Ah oui. Il a du talent. Bien sûr. Il a quelque chose.
Il a du ballon, il a un pied. Même deux pieds, je trouve qu'il a...
Parmi les joueurs, Loïc, qui sont capables de faire la différence en un contre un, dans cette équipe, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Moses Simon, il est blessé.
C'est le seul profil pour
Kader
moi.
Bamba.
Peut-être Traoré, éventuellement.
Traoré
mais Kader Bamba, oui, on est sûr que ça fait partie de sa panoplie, évidemment. Après, est-ce qu'il a toujours mis tous les arguments de son côté? Est-ce qu'il s'est investi comme un vrai joueur pro aurait dû le faire?
Non, il le dit lui-même d'ailleurs dans les interviews.
Persuadé.
Non, il le dit dans les interviews.
T'en as pas mal des joueurs comme ça. En fait, je pense qu'il est vraiment pour moi, il a un talent fou ce joueur-là. Parce que comme tu dis, techniquement, au niveau du dribble, il est capable de gestes incroyables. Le but qu'il marque en Coupe de France à Pau, il est super beau hein, quand il est sur le côté en angle fermé. Il est capable de gestes complètement de génie et des fois, il est déroutant pour ses adversaires, mais aussi pour ses partenaires. Le nombre de fois où on l'a vu complètement arrêté.
Des fois,
tu dis, Kader va.
Bien sûr.
Il a le ballon, là, il sur
le
but.
Il fait parfois perdre le temps d'avance que tu.
Il percute. Ouais. Et des fois, c'est le genre de joueur, t'as l'impression qu'il veut s'arrêter pour dribbler son adversaire avant d'avancer. Ouais. Et des fois, il tente des trucs incroyables.
Toute proportion gardée, ça ressemble un peu à du Hatem Ben Arfa, qui lui était niveau Ligue des Champions, mais qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait pu espérer avec ce qu'il avait dans les pieds.
On a revu après le match avec Florian Cazola l'action qu'il fait. L'action qu'il fait au Parc des Princes devant Draxler. Il est dans sa surface, il fait une roulette pour le dribbler. C'est un joueur qui. Des fois, il fait n'importe quoi, mais ça marche en fait. Donc bon.
Il est imprévisible sur le terrain, il est imprévisible aussi en dehors du terrain. Il faut quand même raconter que c'est donc en janvier. Il est en fin de contrat en juin, hein, Kader Bamba. Il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à lui, notamment Ankara Gucu en Turquie.
Voilà.
Et Ankara Gucu lui propose un contrat de 2 ans et demi. Il va avoir 30 ans, hein, Loïc le disait, 2 ans et demi. Et un salaire 2 fois et demi supérieur à ce qu'il touche à Nantes. Je peux vous dire que c'est, je connais la somme, je vais pas dire la somme, mais c'est plutôt un très 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 bon salaire.
Ça approche ton salaire à toi, non?
On est
à 5 chiffres à Nantes et ça passe à 6 chiffres en Turquie. C'est à 5 chiffres à Nantes et ça passe à 6 chiffres en Turquie.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc, et en fait, il a cette proposition, il a d'autres propositions, Saint-Etienne, Ajaccio, peut-être moins intéressantes sur le plan financier, mais il y a cette proposition de Turquie, et il dit non, ça m'intéresse pas.
Ah, tu l'as bien dit.
Oui, mais en fait, c'est qu'on me l'a raconté, son entourage me l'a raconté, et il est un peu déroutant, un peu imprévisible, et il a pas trop justifié, il a dit non, je vais rester à Nantes, même s'il me reste 3 ou 4 mois de salaire. Et ce qui est fou, c'est que peut-être que ce but qu'il a mis, on le saura plus tard, dimanche, peut-être le but qui va sauver le FC Nantes.
Ah bah, ça ressemble au but du maintien. Dans quelques semaines, on en
verra,
reparle.
On verra.
Mais on s'en souviendra peut-être de ce but.
L'histoire est incroyable quand même.
Ouais, et puis c'est au Havre, pareil. Je parlais du parallèle avec Maram Vairua à l'époque. Il y a peut-être quelque chose. Mais comme disait Loïc, finalement, cette histoire de contrat, ça ressemble à sa carrière, Loïc. À quelque chose d'un peu poussif. On se dit, il aurait pu mieux faire, mais il n'avait pas ce regard sur le football.
Bah, c'est l'élève qui se contente d'avoir 10, quoi, finalement, ouais. Kader Bamba.
Et sur ses talents. Pas en travaillant, c'est ce que tu dis.
Exactement. Ouais. Ouais.
Et c'est un joueur qui a été.
Il est pas d'accord avec ça. Vous avez entendu. Il dit moi je bosse et tout. Je veux pas qu'on dise que physiquement. Ouais,
mais c'est un joueur comme disait Loïc qui a une carrière atypique. Il a fait le centre de formation de Toulouse. Au bout de 2 ans, il s'est fait dégager pour des raisons disciplinaires. Il est retourné dans le monde amateur pendant 3 ans. Il a fait pas mal de clubs. Il a été au Mans, même à Nantes. Il a été prêté à Amiens, à Saint-Étienne. Voilà, c'est un joueur. En fait, j'ai l'impression typiquement ce but, on se dit toujours ah et si c'était quelque part le début de la carrière de Kader.
Ouais. Mais Comboiré, lui, il a l'expérience. Et quand on lui parle de Bamba, il l'encense, mais il dit aussi on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Kader Bamba.
Ben, imprévisible, voilà. Il a dû être un peu enragé parce que le premier choix que je fais, je mets Benny Traoré. Alors que contre Lyon, c'est lui qui rentre le premier. Donc je voulais un peu le piquer, là, puis lui dire, voilà, ce qu'on attend de toi, au-delà donc d'être un bon joueur de football, c'est d'être décisif. T'es trop peu décisif. Et là, voilà, ben, il m'a fait démentir, tant mieux. Et on va dire qu'il a gagné du temps de jeu pour le prochain match. Je connais son parcours. C'est un garçon qui n'a pas fait la formation. Il a toujours eu des hauts et des bas dans sa carrière. Et c'est un garçon qui manque cruellement donc de physique. Pas capable de répéter les efforts. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est capable de rentrer en fin de match. Et donc, voilà, apporter beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions. Quand il est mort de faim comme aujourd'hui, capable d'être décisif. Hein, c'est ce qu'il a montré.
C'est très dur hein, ouais, de la part d'un coach pour un joueur pro de dire qu'il n'est pas capable de répéter les efforts.
En gros,
tu as
compris qu'il ne serait jamais titulaire.
Ouais, ouais, non, on en a compris dans quel registre il va l'utiliser. Mais il dit également qu'il a gagné le droit de rejouer le prochain. C'est qu'on va le revoir contre Rennes. Alors peut-être que ce sera que la dernière demi-heure, mais a priori, on le reverra quand même.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est le joueur de Ligue 1 qui a passé qui a le plus de minutes en tant que remplaçant. Et de toute façon, tu le fais rentrer quand tu veux faire la décision, ce qui arrive quand même souvent, parce que Nantes a souvent été mené. En fin de match, ouais. Tu le fais rentrer, tu dis sur un coup, typiquement comme
un
avant,
miracle.
Sur un coup, il est capable de faire un truc, un
et
éclair.
Là, cette fois, ça a marché. Antoine Comboiré avait fait d'autres choix, messieurs, et on va revenir un peu en arrière dans cette rencontre pour analyser les choix du coach, la compo au coup d'envoi, titularisation de Palois, de Duverne, de Moutoussamy. Loïc, c'était surprenant de voir ces trois-là, Palois, Duverne et Moutoussamy sur la pelouse.
Palois, on s'y attendait, même
normal.
Si Zézé était passé devant dans la hiérarchie.
Bah oui.
Avec Antoine Comboiré. En revanche, Zézé, avec les circonstances que l'on connaît face à Lyon, était quand même passé après son choc.
Donc après son choc.
Ouais,
il y avait Reims aussi
après Nicolas Palois.
Strasbourg
dans le match.
Moi, Palois, pas du tout surpris. On l'avait mis dans nos compos probables. En revanche, effectivement, le retour de Jean Kev au poste de d'arrière gauche à la place de Kozza
sur le banc.
Et la titularisation de Moutoussamy dans l'entrejeu, bon, qui peut apporter un peu de folie, de course, en tout cas de dynamisme. Mm. Mais je n'avais pas le sentiment que Douglas Augusto avait nécessairement démérité sur les derniers matchs.
Surtout,
il a quand même eu une période de creux cette saison, Douglas Augusto.
C'est vrai, moins bien.
De moins bien, mais je... pense pas que c'était le cas les dernières semaines.
On fait pas le débat Paloise-Aizé. Pour vous, c'était logique que ça se soit inversé.
Tu me poses alors, pas la question.
Non, mais on va les faire un par un quand même. En revanche, sur la prestation de Nicolas Palois, messieurs, j'ai ouvert tout à l'heure en disant médiocre pendant 90 minutes.
Médiocre,
parce
c'est
que
dur. Médiocre, t'es dur.
Il non. ne m'a pas. Mais médiocre,
pas rassurant,
médiocre ça veut dire moyen. Hein.
Oui, donc, mais, c'est pire, je trouve, médiocre.
Non, tu regardes
médiocre,
en dictionnaire. Tu regardes en dictionnaire, David.
Alors, en Vendée, c'est peut-être pas pareil.
Ça fait. Il vérifie tout maintenant.
Non, médiocre, c'est moyen.
Donc, il a fait un match très moyen.
Très clivant, en fait. C'est marrant parce que dès la fin du match, on a parlé, souvent on parle un peu de nos notes, voilà, savoir si on a eu le même ressenti. Alors, on était assis à côté avec Loïc. Voilà, moi évidemment j'étais dithyrambique. Loïc était.
Le 9 était exagéré quand même, non.
était en mode moyen plus, mais je sais que par exemple,
non, Nicolas Grégis
du pont de l'équipe lui met 4.
Et non, mais attention, attention, la note
non,
elle change,
non,
sur le sauvetage
oui,
final qui est exceptionnel.
Non, mais
non,
lui
non,
met 4 avec le sauvetage final. Et moi je suis pas d'accord.
Je suis d'accord avec toi.
Parce que
ça méritait 5.
Son sauvetage, il mérite plus. Il a ce sauvetage devant Bayeux qui est extraordinaire, qui vaut un but.
Donc ouais, déjà, tu as raison, c'est quasiment un but marqué.
Un mois de plus. Il a fait 2-3 sauvetages, pardon Loïc, je te coupe. Il a fait 2-3 sauvetages dans la surface, quand même intéressant. Et ok, il se fait dribbler de temps en temps, on le sait qu'il n'est pas rapide, mais il a rattrapé des coups. À un moment, il se fait déborder et il lâche pas l'affaire. Et le joueur qui l'a débordé,
il s'est aussi fait déborder, franchement. Il est resté parfois sur ses appuis et en vitesse, les mecs sont passés en
y a
face.
Une fois,
il
y
m'a
une
pas
fois
rassuré
visible,
pendant 90 minutes.
Arrêtez avec.
Mais non, il fait un très bon match. Moi, j'ai
fait un très bon match, pas à Barrette.
Moi, j'ai plein de collègues. Attends, sincèrement, j'ai plein de collègues.
Ça suffit.
Mais non, j'ai plein de collègues qui m'ont dit encore tout à l'heure, justement, avant l'enregistrement du podcast, ils m'ont dit, dis donc, pour un fan de Palois, tu l'as un peu sous-noté. Alors que je lui ai mis, plusieurs collègues.
Non mais attends,
oui,
que je te dis,
la
y
note
y a des
finale,
gens,
elle dépend de l'ensemble de la prestation. Moi, je
mais
te dis jusqu'à la 90e, il n'est pas rassurant. Non, il est passé en vitesse, il n'est pas rassurant.
Oui, mais ça on le découvre pas. Moi, il y a un truc. Alors d'abord, arrêtez avec les notes et puis lisez aussi les commentaires. Mais lisez aussi les commentaires qui les accompagnent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les notes, vous savez ce que j'en pense. Moi, je le fais parce qu'on me le demande, mais ça reste pour moi une escroquerie intellectuelle. Ensuite, Palois, pendant le match, il y a deux fois où il se fait enfumer, vraiment. Sur une touche à la 18e minute, quand c'est Sabi qui part.
C'est la seule action, du
Havre. Et par André Ayou, où il prend un tour de rein. Ayou qui frappe juste à côté du poteau droit de Lafond. Ouais. C'est une grosse occasion pour
Havre. Je rajoute la faute qui occasionne un coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation.
Ok. Et le nom.
Sinon, il est sur énormément de trajectoires de centre.
Il est bien placé. Mais oui, bien sûr.
Il coupe tout ce qui coupe de la tête. Tous les ballons qu'il a dégagés dans les 6 mètres. Il y en a beaucoup.
Non, mais alors Loïc a vu le match à côté de Pab, il est complètement...
Non, j'ai pas dit qu'il faisait un match exceptionnel, loin de là, mais pour moi, il fait un match correct.
Je pense sincèrement que l'impression à la télé peut-être pas forcément la même au stade. Moi, je trouve qu'il a coupé un nombre incalculable de centres.
Surtout en deuxième mi-temps.
Mais oui, en deuxième mi-temps.
Et comme dirait Jean-Marcel, en tous les cas, son sauvetage final sauve son match et lui permet d'avoir une bonne note parce qu'il est ultra décisif et c'est grâce à lui que Nantes peut gagner 1-0 derrière et se bute en bas. Donc bravo Palois de ce point de vue-là.
Petite anecdote pour mon fan club sur cette action-là. C'est quand Bayeux va rentrer, t'as Nicolas Palois qui vient au bord de la ligne de touche prendre une petite bouteille d'eau de Trégnac, très bonne eau. Il a la main sur la hanche, tranquille, comme au bistrot, en train de boire sa petite bouteille, tranquille. Et tu sens qu'il regarde, je dis à Loïc, il regarde Bayeux, comment il va le bouffer juste après. Et c'est vraiment dans la foulée.
Si vous avez vu l'action, il est en retard sur cette.
Il est en retard sur cette action, il se jette.
C'est l'énergie du désespoir.
Ah oui,
mais tu vois, tu disais tout à l'heure, Bamba, c'est peut-être le but du maintien, on en reparlera plus tard. Si ça se trouve, c'est le tacle du maintien.
Oui, parce que c'est 1-0 dans l'autre sens.
Tu aurais sûrement percuté la fond.
Il a cotisé au Fat Club, ça y est, Loïc. Comment t'as fait pour le motiver?
Mais les gars, faut.
C'est vrai que si c'est 1-0 pour le Havre, c'est terminé. Tu reviens pas. Et là, le destin s'inverse.
Dans le vieux langage, ça veut dire moyen. Mais dans le langage moderne, c'est insuffisant.
La mauvaise foi.
C'est insuffisant.
Mais en Vendée,
David, les gars, soyez précis dans vos termes.
En Vendée, c'est moyen.
Bien que tu découvres un mot, ça me fait plaisir.
Le Nouveau Testament en Vendée, tu lis l'ancien.
En Vendée, c'est ancien, c'est sûr.
Ils lisent les deux. Merci David pour cette précision sémantique. On a fini avec Palois et Zézé. On s'intéresse maintenant à Kozza et Duverne. Kozza sur le banc, Duverne sur la pelouse. Est-ce que vous avez eu en coulisses des explications? Une méforme de Kozza, une petite blessure, quelque chose? Non, on n'a rien
sur
eu.
Sur Kozza, non.
Alors, non. Duverne, c'est un choix étonnant parce qu'il est un peu à court de compétition. Il ne faisait pas partie des titulaires précédemment. Et sa titularisation, je suis désolé, il était moyen. Alors, il était médiocre.
Non, médiocre.
Il était en dessous.
Là, c'est médiocre moins.
Ouais.
Enfin, il y a le nombre de ratés. Mais encore une fois, encore une fois.
Mais il n'a pas de rythme, on peut toujours dire ça.
Comme à chaque fois, il fait des saucisses pas possibles. Enfin, ouais, il fait des choses.
Anticipation, c'est
pas possible. Il fait des choses qu'on ne voit pas en Ligue 1. Enfin, t'as l'impression des fois de voir un joueur de enfin, comme nous.
Dégagement en touche, un moment
si on se retrouvait dans un foot à 5, là, en salle, on ferait les mêmes saucisses. Sauf qu'en fait, t'as l'impression qu'il a une chance ou une réussite pas possible qui fait qu'il cause finalement assez peu de buts. Tu prends la saucisse qu'il fait, la passe en retrait complètement foirée, ça mène le but de Nantes quelque part.
Ouais,
t'as l'impression que les adversaires se disent.
C'est plus de sa faute après. Non, on va pas non plus dire. Ouais, on le prend.
Non,
alors le mec, à la chagate, on va l'aligner, c'est sûr, il n'y aura pas de but.
Bah, oui, bah, regarde, Tchemert, lui, il percute toujours à la fond et il râle après en disant je suis sur le but, mais c'est pas de ma faute.
La prestation de Duverne, Loïc.
Voilà, difficile.
Décevant.
Non, on a rigolé un peu.
Surtout, j'ai pas compris. Voilà, je le trouve en difficulté sur son, pardon, sur son pied. Enfin, il joue à gauche. Il est droitier. On sent qu'il est pas à l'aise avec le ballon. Alors déjà qu'il a du mal techniquement, et en plus il est.
Mais tu sais que tu vas pas peser offensivement ou que tu vas moins peser offensivement sur le côté gauche.
Que Cosa.
Oui, tu le sais. Ouais.
Cosa, il est plutôt
pas mal. C'était un choix très clairement défensif de la part de Comboiré.
Ça parle, ça dit des choses aussi sur les intentions d'Antoine Comboiré.
Bah oui.
Mais d'ailleurs, la question lui est posée, je crois.
Écoutons-le sur ce sujet-là, les remplacements.
Et qu'est-ce qu'on veut ? Vous, les journalistes, vous voulez le spectacle, et moi, je veux gagner. C'est moi, je veux rester en Ligue 1. Voilà. Mais je pense, c'est vrai que si on veut gagner des matchs, il faut jouer aussi. Donc, et pour ça que dans cette première mi-temps, il faut demander au Havre. Ils ont refusé le jeu au premier mi-temps. Nous, on a eu la possession, on a eu le ballon, on a joué. Pour faire le spectacle, il faut deux équipes. Mais après, voilà, j'ai mis une équipe, moi, avec beaucoup d'expérience. Dans ce genre de rencontre, et puis après, vous inquiétez pas, hein, on aurait perdu, vous aurez pu dire que j'ai été mauvais dans mes choix. Puis là, aujourd'hui, c'est la victoire des joueurs. Je prends.
C'est la victoire des joueurs, c'est pas forcément la victoire de ses choix. On est allé un peu plus vite parce que David a décidé de lancer les sons, mais on va quand même finir sur les trois remplaçants. Mais oui, on a encore un débat, cher David.
Mais Cosa, c'est quand même étonnant, parce qu'il avait été plutôt bon. Moi, j'avais trouvé plutôt bon dans ses prestations. Et même depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, on avait vu des latéraux, pareil pour Kevin Amian, qui était plus offensif. Cosa, il se projetait un peu vers l'avant. Contre Lyon, il a pas démérité non plus, alors que les ailiers lyonnais étaient bons. Bon voilà, je pense qu'après, il est peut-être qu'Antoine Comboiré, il veut aussi concerner tout le monde. Il l'a dit quand il est arrivé que c'était tout un groupe et qu'il voulait concerner tout le monde. Et il a voulu, je pense, donner une chance à Duverne.
Oui, bah je pense qu'on le reverra pas. Si c'est en tout cas sur cette prestation-là, moi j'ai pas été convaincu du tout et j'ai envie
parce
de revoir.
Parce que t'avais été convaincu par les précédents.
Mais non, mais j'ai pas compris. C'est pour ça que je parlais de grosse surprise au moment du coup d'envoi et peut-être d'un souci pour Nicolas Cosa.
Non, parce qu'il s'est chauffé pendant le match. Il attendait d'entrer et bon, il n'est pas entré.
Voilà pour ce choix-là. Le dernier, c'est celui de Moutou Sami à la place de Douglas Augusto. Alors surprenant ou pas, et surtout, qu'avez-vous pensé de la prestation de Samuel Moutou Sami? Je l'ai trouvé plutôt neutre. C'est difficile de.
Il a beaucoup joué en retrait. Moi, je trouve.
Mais pris beaucoup de risques dans le jeu, j'ai trouvé. Ouais.
Comme un peu toute l'équipe de Nantes. Voilà, c'était les schémas de passe. On voyait ça avec Loïc Détribune. C'était toujours l'incroyable Nicolas Palois pour Duverne, qui remettait à Palois, qui donnait à Moutou Sami, qui redonnait à Palois. Et puis après, ça finissait par un grand ballon devant.
On a manqué d'ambition côté nantais sur ce match-là. Non, parce
c'est pour
que
ça
qu'on va analyser
Antoine,
le 1-0.
Antoine Comboiré te dit, la première mi-temps, on a maîtrisé, on a dominé. Non, il n'y a rien eu du tout. C'était
Vrai aussi. Hein, les deux,
mais c'était électro-encéphalogramme plat. C'était affreux. Enfin, franchement, cette saison d'avoir vu
un match aussi pourri,
aussi pauvre des deux côtés. Je te dis, on était vraiment dans les bas-fonds de la Ligue 2.
Comboiré vous répondrait de manière pragmatique.
On a gagné.
Il a pris les 3 points.
Ouais.
Et je suis d'accord, il n'y avait pas d'ambition dans le jeu. Non, mais tu joues le maintien en ce moment. Tu n'es plus en train de parler de jeu en ce moment. Là, ça se joue dans la tête.
David,
dire ailleurs même.
Ils s'y sont mis tout seuls, si tu veux.
Non, mais David, ça fait longtemps.
Oui, je sais bien, mais...
Ça fait longtemps qu'Orvenek, il a fait quoi à partir de Toulouse ? Toulouse, tu gagnes, tu marques à la première minute, tu passes 90 minutes dans ton camp, tu sors une fois, tu mets un deuxième but. Ok, contre à Lorient, tu joues pas, tu gagnes 1-0.
Oui, oui, mais c'est Gourvennec. Moi, j'entends Comboiré dire, attention, si on veut gagner, il faudra jouer.
De l'ambition.
Il faudra jouer. Là, je ne l'ai pas vu forcément
mais après,
sur ce match-là.
Rien à dire sur Comboiré, hein, deux victoires en 3 matchs.
Deux victoires à l'extérieur, notamment.
Comme il a dit, il a raté qu'une seule mi-temps contre lui.
Que retenez-vous d'abord de la victoire du FC Nantes au Havre, David? C'était notre sondage de la semaine. J'ai les réponses sous les yeux. Miracle, au bout de l'ennui, large majorité, hein, plus de 60% des gens. Incroyable, Kader Mamba, un peu plus de 10%. Grand pas vers le maintien, 20%. Et puis, parfait avant Rennes, 6%. On va en parler dans un instant du Stade Rennais. Anto nous dit, on s'ennuie toujours, mais ce qu'on n'arrivait plus à faire avec Jocelyn Gourvennec, c'est gagner et au moins prendre des points. Un éclair dans la médiocrité, celui de Mamba, nous dit Patrick. Nantes a gagné une bataille pour le maintien, mais pas la guerre. Il fallait retenir l'essentiel. Plus largement, est-ce que, et ce sera la dernière question de cette première partie, on a fait un grand pas côté nantais vers le maintien ou pas, selon vous, avec cette victoire-là? Moi, je vous réponds oui, grand pas, parce que c'est un adversaire direct que tu mets à 3 points. C'est un adversaire direct, l'autre, Lorient, que tu mets à 5 points et qui jouera le PSG en match en retard avec cette fois 5 points à reprendre sur Nantes. Donc psychologiquement, je pense que Nantes a fait un grand pas sur ses adversaires.
Mais tu viens de dire de psy, tu viens de parler de psychologie.
D'un point de vue comptable et d'un point de vue psychologique. Non,
c'est un petit pas. C'est un petit pas.
5 points, c'est quand même une pour des équipes.
Oui, mais chaque point, évidemment, on l'a vécu la saison dernière avec Auxerre, où Auxerre a été un point devant, ils l'ont gardé quasi jusqu'à la dernière journée. Donc évidemment, chaque point compte. Et prendre ces 3 points-là au Havre, c'est exceptionnel. Mais ça reste un tout petit pas.
Tu perds
le week-end prochain contre Rennes et les autres gagnent. Faut pas oublier que au départ, les résultats du week-end n'étaient pas bons du tout. T'as Metz qui bat de manière surprenante Lens, t'as Strasbourg qui gagne. Là, on a la chance finalement le dimanche que t'es un nul entre Montpellier et Clermont. Oui. Mais les résultats n'étaient pas bons. Hein.
Grand pas dans les têtes, petit pas sur le plan comptable. Voilà. Parce que je vais encore parler du calendrier, mais j'ai très très peur que le FC Nantes sur les 3 derniers matchs fasse 3-0. 0 déjà sur Brest, Lille et Monaco. J'ai vu Brest l'autre soir, c'est même pas la peine. Lille, c'est l'équipe du moment. Et Monaco, si Monaco a encore un. Et en plus, tu bats jamais Lille. Et Monaco, si Monaco a encore un truc à jouer. Monaco, avec sa force offensive, j'y crois pas trop.
D'où l'enjeu de Rennes et de Montpellier qui arrivent pour les Nantais, de sortir quelque chose.
Exactement. Là, les deux matchs qui arrivent sont capitaux. Ouais.
Très bien, clairement. Mais le Football Club de Lorient a un calendrier très difficile
Metz
également.
Il n'y a pas un petit Le Havre-Metz ce week-end?
Il y a 5 points à reprendre.
Dimanche.
Le Havre-Metz.
Non, mais 5 points, mais attention, Lorient a un match en moins. Lorient va à Nice.
Lorient joue le Paris Saint-Germain, va à Lens, à Marseille et accueille Clermont sur la dernière rencontre. Donc il y a peut-être ces 3 points sur la dernière rencontre.
Il
y a peut-être ces 3 points-là.
Metz a un mauvais calendrier aussi.
Loïc, petit pas ou grand pas?
Pour moi, c'est un petit pas. Parce qu'on est encore loin, malgré tout, de l'arrivée. Il reste des matchs compliqués pour tout le monde. Et il ne faut pas croire que... Moi, tu dis Lorient-PSG. Quel PSG va accueillir Lorient? On n'en sait rien. Admettons que le PSG se qualifie en Ligue des Champions. Là. Est-ce que Luis Enrique ne sera pas tenté une nouvelle fois de procéder à un énorme turnover comme il l'a fait face à Clermont, avec le résultat qu'on sait? Donc pour moi, c'est vraiment prématuré de dire un grand pas, un petit pas, oui.
On le saura dans quelques journées, la valeur de ces 3 points-là, s'ils sont suffisants ou pas pour les Nantais. Évidemment, s'ils perdent tout jusqu'à la fin, ce sera compliqué. Là, on est d'accord sur ce point de vue-là. Nantes, Rennes, le derby, on en parle, les amis.
David Filippo, Pierre Arnaud Barre, Simon Rongoat, Loïc Folio. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Samedi, c'est derby avec un énorme enjeu pour les deux équipes, notamment côté nantais, ne plus perdre à la maison.
Le Renault ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renault, Mr. Renard.
Le FC Nantes aux deux visages, 3 victoires sur les 4 dernières rencontres à l'extérieur, mais 8 défaites consécutives à domicile. Intéressons-nous à l'adversaire du jour. Pour parler du Stade Rennais, on accueille un expert, Laurent Frétinier, journaliste Ouest France à Rennes. Salut Laurent.
Bonjour à tous.
Dans quel état d'esprit sont les Rennais avant de débarquer à la Beaujoire? On a cru comprendre que c'était un peu la crise en ce moment.
Oui, on coulisse doucement vers la crise depuis la trêve avec 4 défaites d'affilée. 3 en Ligue 1, un seul but, c'est le moral et pas au beau fixe. Alors surtout que le match samedi contre Toulouse a été très très décevant. Une deuxième mi-temps proche du néant dans le jeu, dans la réaction. Enfin franchement c'était très inquiétant. très loin de, du niveau de cette équipe du mois de janvier-février, où elle brillait, elle enchaînait les victoires. Et là franchement, c'était assez pathétique. Et dans quel état d'esprit? Alors, le président Julien Stéphan ont appelé à une réaction en disant, évidemment, dans le derby, il est hors de question de montrer un visage aussi indigne et une telle apathie.
Gros coup de gueule, hein. Gros coup de gueule du président, quand même, Cloarec, après la rencontre. Ils sont un peu sous pression, les Rennais, après ça.
C'est sûr que, en plus, Olivier Cloarec, il prend assez peu la parole, et puis il n'a pas. Normalement, il est assez mesuré. Et là, il a été assez. Il a durci le ton, clairement. Julien Stéphan a aussi dit que le derby était un match qui lui tenait à cœur et qu'il était hors de question que les joueurs lâchent comme ça. Et d'ailleurs, il a dit qu'il est hors de question de finir la saison en roue libre. Pression sur les Rennais, et donc ça pimente un petit peu plus ce derby s'il le fallait.
Mais comment tu l'expliques ce coup de moins bien? Parce que Rennes a plutôt fait une bonne partie de saison. Sur le papier, ils ont des joueurs incroyables. Pourquoi ça cale comme ça?
C'est la prolongation de contrat de Stéphan. Ouais, depuis qu'il a prolongé, il ne se passe plus rien. Non, c'est une blague, mais c'est concomitant.
Et c'est concomitant, effectivement. Alors, il y a des explications. Alors on dit qu'ils ont eu 6 jours de vacances pendant la trêve, qu'ils ont du mal à relancer la machine. Il y a l'explication aussi que quand même c'est cette équipe, il y a des joueurs brillants, mais ils jouent pas ensemble, pas beaucoup en tout cas. En ce moment, c'est un peu, on s'en remet qu'au talent de Désiré Doué. Bourigeaud, qui est quand même un peu aussi le baromètre de cette équipe, est dans une méforme étonnante à cette partie de la saison. Il commence souvent mal les saisons, mais normalement à ce moment, il est plutôt pas mal. Il était le milieu européen le plus décisif en termes de buts et de passes dés avant la trêve. Et là, il est que l'ombre de lui-même. Il n'est pas revenu de vacances. Santa Maria, c'est pareil. Arthur Théat passe plus de temps à râler sur ses coéquipiers qu'à défendre, sans parler de la fragilité défensive. Et puis, je pense que le gros défaut, c'est une équipe qui mentalement est très faible mentalement. Elle n'a pas de leader. On a vu Matic avec Lyon dimanche soir quand même.
Détestable, mais mieux vaut l'avoir dans son équipe. Voilà.
Il vaut mieux l'avoir. Ouais, exactement. Et c'est un peu ce qui manque, sans doute, un chien comme ça à Rennes. Il y en avait à l'époque de la Coupe de France en 2019. André, Ben Sebaini, il y avait du tempérament. Là, il semble qu'il n'y en a pas. Il y a du talent, mais pas de tempérament, et des gars qui jouent pas trop ensemble. Et il y a hier Pierre-Yves David, le coach assez bien connu en Ille-et-Vilaine, avait une théorie en disant que finalement, mentalement, c'est des joueurs, ils se rendent compte que la marche était trop haute, peut-être des ambitions de la Ligue des Champions, et puis même finalement des ambitions d'aller décrocher une place en Ligue Europa, et que finalement, mentalement, peut-être presque inconsciemment, ils lâchent, et ça lâche. Alors, c'est une explication comme une autre, mais en tout cas, c'est clair que mentalement, il y a un vrai déficit mental.
Ils payent leur début de saison catastrophique. Il y a eu un changement d'entraîneur à Rennes aussi, on le rappelle, Genesio, puis Stéphan David.
Et n'hésite pas, Laurent, à dire que c'est dans Pleine Lucarne, hein, le podcast.
Oui, c'était hier dans Pleine Lucarne.
Voilà, non, mais c'est important de le dire.
Voilà. Faire un peu David, une question.
Laurent, parle-nous un peu de Ludovic Blas. On a l'impression que vous avez le Ludovic Blas exaspérant qu'on a eu parfois à Nantes.
Il fait son retour pour la première fois à la Beaugeoire samedi.
Ouais, c'est son retour. Hein.
Alors oui, c'est vrai que parfois on en oublie même, on l'oublie même dans l'énumération des joueurs décevants et très très moyens, parce que il est tellement neutre en fait. Quand il entre en jeu, il a un côté exaspérant dans son attitude, mais surtout il est tellement neutre dans son apport. Là samedi encore, il rentre quand même, il a 25 minutes de temps de jeu, presque une demi-heure. Il fait rien du tout. C'est exaspérant. Il avait eu un petit peu, c'était un petit peu mieux, justement à la période où Rennes allait mieux. Il a eu plusieurs titularisations et il est bien mieux quand il est titulaire. Alors après, évidemment que tout joueur préfère être titulaire, hein, mais pour cela, faut faire ses preuves à l'entraînement et lors des matchs où on rentre comme remplaçant. Et lui, c'est pas toujours le cas. Mais on voit par moments cette once de talent, mais qui est un peu gâchée par une attitude, un peu de dilettantisme, je sais pas. plus que même lui il reconnaît ce dilettantisme. Alors,
oui, ça fait des années que ça dure.
Sauf qu'à Nantes, il avait des stats, il était régulièrement décisif.
C'était mieux, plus régulier.
Et un peu plus influent sur le jeu aussi qu'il ne l'est à Rennes. Laurent, on se retrouve samedi pour ce derby sur fond de lutte pour le maintien côté nantais et de chance européenne encore pour Rennes. Malheureusement, on n'aura pas une ambiance de derby parce que la tribune noire est à huis clos. Côté rennais, on sait si le déplacement va être possible. Il y aura un arrêté très certainement. Hein, c'est ce qu'ils nous font à chaque fois.
On ne sait pas encore, mais si je devais faire un prono, ça est plus facile que le résultat du match.
Ça, c'est sûr. Merci beaucoup.
Avec nos préfets, ils sont plus prévisibles que nos joueurs de foot.
Ouais, clairement. Et pas toujours dans le bon sens. Merci Laurent.
Et au plaisir en tout cas et à bientôt.
À bientôt. Pour ce derby, on n'a pas évoqué un autre joueur prêté par le Stade Rennais, c'est Mathis Ablin, messieurs, qui ne jouera pas. Ça fait toujours partie des accords de prêt. Vous comprenez ces accords de prêt ou on pourrait les remettre en question dès lors que le club qui accueille paye le salaire du joueur? Parce que parfois un club paye en partie le salaire, donc tu dis je le paye, c'est pas pour qu'il me mette des buts.
Si l'ensemble
du salaire est pris par le club qui accueille, il n'y a pas de raison.
Mais au-delà de ça, c'est même pas une question d'argent, c'est juste une question pour moi.
Les présidents vont raisonner comme ça, Loïc, c'est sûr.
Mais
un président qui prête un joueur et dont il paye encore la moitié du salaire, si sur le terrain il te met des buts, tu dis non, on se met d'accord, tu joues pas contre nous.
Alors là, je sais pas qui paye l'intégralité ou comment ça se passe au niveau du salaire pour Ablin.
On pourrait interdire ça,
mais
d'ailleurs.
Je pense que c'est Nantes qui prend en charge, je me renseignerai, mais c'est vrai, moi je trouve ça ridicule, quoi. Vraiment,
c'est aberrant. Ces accords sont aberrants. À partir du moment où tu prêtes ton joueur, ça veut dire que tu ne comptes pas dessus à l'instant T et que tu souhaites qu'il obtienne du temps de jeu par ailleurs. Eh ben, donnez-lui du temps de jeu.
Pab.
Point barre.
Moi, je sais pas, je suis plus mesuré là-dessus.
Tu prends toujours beaucoup de hauteur, beaucoup de recul. Non, mais
c'est... que tu vas t'envoler, Pab.
Non, mais c'est... en fait, tu te dis que voilà, si t'as un enjeu, t'imagines, tu es un joueur quand même qui appartient aujourd'hui à Rennes. C'est pas le cas parce que pour des raisons sportives, t'as Nantes qui joue maintien et Rennes l'Europe. Mais si les deux équipes jouaient une qualification en Ligue des Champions, tu peux aussi te dire du côté de Nantes, mince, est-ce qu'Ablin va marquer pour Nantes parce que ça pourrait ne pas qualifier.
En handball, tu sais, les joueurs s'engagent un an, deux ans avant.
Incroyable.
Il s'engage dans un club contre lequel il joue en championnat pour des matchs hyper importants. Je me souviens d'un exemple de Nicolas Clerc il y a très longtemps, handballeur nantais, qui avait joué, qui était à, je sais plus où il était, à Paris, il était venu, je sais plus, il était allé à Nantes. En tout cas, il jouait contre son ancien club, c'était Paris, c'est ça.
Pas trop long sur le hand, David. Pas trop long.
Sinon,
on avait Christophe Delacroix, on aurait l'expertise, si tu veux.
Oui, c'est vrai. Mais en hand, c'est tout le temps comme ça.
Oui, mais dans le foot, tout porte
pas quoi.
Non, mais David, tout porte à polémique dans le foot.
Dans le basket,
je te dis, imagine que t'es Nantes. C'est complètement l'utopie, mais les deux jouent pour la Ligue des Champions. T'as Ablin qui est prêté par Rennes et qui va louper une énorme occasion qui qualifie finalement Rennes en Ligue des Champions.
Si
tout le monde va
direct,
lui tomber dessus et dire ah bah dis donc, Mathis Ablin a raté l'occasion
c'est
parce que
du foot, ça.
L'année prochaine, voilà.
Il n'est pas là, Mathis Ablin. Loïc,
dans ces cas-là, t'arrêtes les prêts, c'est tout.
Oui, non, mais on pourrait réglementer ça comme ça.
C'est un peu le FC prêt quand même.
Ablin n'est pas là. Il n'a pas le droit de jouer en vertu du prêt du Stade Rennais et des conditions du prêt. Soit. Comment faire sans Mathis Ablin? Il y a un mois, on aurait dit, comme d'habitude.
Tu mets Kader pendant une demi-heure.
Mais là, Jean-Kevin Duverne.
Comment va faire Antoine Comboiré, messieurs, sans Mathis Ablin devant? On imagine Mostafa Mohamed.
C'est un peu de monde.
Kadewere sera-t-il de retour probablement?
Oui.
Benny Traoré aussi. Qui fera-t-il jouer, d'après vous? Un petit Benny Traoré qui semble avoir les faveurs du coach, là, au moins pour entrer en jeu sur les fins de rencontre.
C'est difficile à dire parce que Kadewere n'a pas pu jouer contre Lyon.
En vertu d'un accord.
Je vous dis que c'est le FC Prêt.
Et qu'il était indisponible, forfait blessé pour le déplacement au Havre. S'il revient, je pense qu'il sera titulaire avec Mohamed, je pense.
Et Traoré à voir. Il a quand même été très peu titulaire, Traoré. Il a peu de temps de jeu. Moi, je vois plutôt Kadewere et Mohamed. Alors peut-être qu'il va revoir son dispositif.
Je te dis, Kader Bamba.
Il va être obligé.
Kader Bamba.
Alors, il met Kader Bamba sur une mi-temps.
Mais non. Il nous a expliqué lui-même, Antoine Comboiré, que ce n'était pas trop l'idée. Bon. Blas, on en a parlé avec Laurent à l'instant. Il va avoir quel accueil à la Beaujoire? Neutre, on s'en fiche.
La chance de Ludovic Blas, c'est que la tribune noire est fermée.
Ils seront là quand même.
Ça fait quand même moins de bruit.
De bruit, ouais, mais ils seront là. Après, va-t-il être sifflé?
J'espère qu'il sera pas sifflé.
Il le sera, évidemment.
Peut-être. Non, je suis pas sûr.
Ah, si, un petit peu, il est parti à Rennes.
Il le sera, vous le savez.
Valentin Rongier est parti à Marseille.
Oui, mais Rennes est
Nantes.
C'est Rennes, c'est dommage, mais c'est. Moi, ça me ferait de la peine. C'est quand même le capitaine de la victoire. Oui, je suis sensible. Mais je prends de la hauteur. Je suis sensible. Je suis tout.
Est-ce que tu as la même peine pour Alban Lafont, qui est quand même le gardien de la victoire en finale?
Comment ça, quelle peine par rapport à quoi?
Quand il partira.
Quand il partira à Rennes.
Ouais.
Bah, je lui dirai au revoir. Mais, non, mais Ludo Blas, voilà, c'est le capitaine en Coupe de France. Il revient un an. Enfin, faut pas oublier tout ce qu'il a apporté aussi au club.
Je poursuis mon débat de cette première partie. Je vous avais dit, moi, je pense qu'ils ont fait un grand pas et on le verra en gagnant au Havre. Une victoire dans le derby. Alors là, ça ferait 34 points. C'est le maintien ou pas, selon vous? Nantes prend à nouveau 3 points là dans le derby. Ouh, bah, David n'est pas loin de dire oui.
Bah, ça va dépendre. Il y a Lorient qui joue à Nice vendredi soir. Ouais. 34
ça
points,
ça ferait 8 points d'avance sur Lorient s'ils perdent à Nice. Non, mais là, on est dans la foot fiction, ça n'a aucun intérêt.
Je pense que 35 points pourront suffire.
34-35, c'est ce qu'on a dit il y a quelques semaines. Jean-Marcel Boudard était à 38, mais il n'a jamais été bon en maths.
On ne l'a pas revu depuis.
34 points, ça peut suffire. Il va être important ce derby-là. La tribune noire fermée, l'ambiance, on en a parlé aussi un petit peu.
Alors, fais pas le débat sur les fumigènes.
Ça risque d'être particulier. David, tu veux rajouter quelque chose? Tu as eu des retours peut-être sur notre excellent débat sur les fumigènes?
Non, j'ai vu qu'ils avaient craqué encore des fumigènes là.
Pour les 25 ans et au Havre.
Mmh. Ouais. C'était joli.
Deux fois.
C'était très très joli.
Ouais. Des belles photos de Pab et de Loïc sur les réseaux sociaux.
J'ai vu. Voilà. J'adore regarder ça.
Allez messieurs, on
et
parle...
C'est ton fond d'écran de téléphone en plus.
Oui.
40 ans. Oui, dis donc, c'est joli David. Comme quoi, hein. Entre ce qu'on raconte à l'antenne et la vérité, c'est parfois différent.
Non mais c'est une connerie, hein. Les gens vont croire que j'ai vraiment...
Allez, on prend l'avis d'un auditeur pour finir, qui gagne 2 places VIP pour son entraîne dans son contrôle grâce à nos copains de NH8, la marque streetwear 100% nantaise. On accueille Anthony, sélectionné sur Twitter. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous.
Alors tu les sens comment ces Nantais que tu vas voir grâce à NH8 à la Beaujoire samedi?
Eh ben compliqué hein, comme d'habitude puisque il y a des bons résultats à l'extérieur. On a toujours du mal à se faire une idée parce qu'à la Beaujoire on prend que des piles.
Ouais, ça fait 8 fois que Nantes prend des piles.
C'est un peu ça. Donc la schizophrénie des supporters nantais fait que on sait qu'on va s'embêter, on sait qu'on va probablement avoir une défaite, mais on est quand même content d'y aller et puis on espère les voir gagner contre Rennes en plus. Ce serait quand même pas mal pour la fin de saison.
On a quelques questions parce qu'on a eu des débats juste avant de t'accueillir. Petit pas ou grand pas vers le maintien, la victoire au Havre, selon toi?
Petit, parce que le calendrier, parce qu'il reste des matchs, parce que on a vu qu'on était quand même pas au top sur toute la saison. Donc on verra bien, hein. Prendre 3 points au Havre, c'est bien, mais si c'est pour prendre que des revers derrière, on verra. Pour moi, c'est petit.
Fumigène ou pas à la Beaujoire samedi? On vient d'en parler avec David, c'est pour ça. Bon, toi, t'aimes bien les fumigènes, t'es en Loire d'habitude, c'est ça?
Moi, j'aime bien, mais là aussi, ça fait partie de la schizophrénie. C'est qu'on aime bien les voir, mais on sait aussi qu'on s'expose aux sanctions pour faire un pas vers David.
Ça j'apprécie.
Ne jamais faire un pas vers David.
C'est ça parce que t'as gagné des places, c'est pas David qui les offre les places. Hein.
La fin de saison, tu la sens comment, Anthony? Puis on te libère après.
Moi je la sens bien parce que je suis un éternel optimiste. Hein. On espère toujours qu'on va se maintenir pour pouvoir revivre une galère l'année prochaine. Mais après, il faut être optimiste parce que sinon on ne viendrait plus au stade et puis on ne serait pas vraiment des supporters du FC Nantes.
Est-ce que vous êtes optimiste, messieurs? On va fermer cette deuxième partie avec ça pour cette fin de série à la Beaujoire. En ouverture, je disais 8 défaites consécutives. C'est historique, c'est incroyable, c'est nullissime de la part des Nantais.
Bah, c'était historique déjà à partir de 5 défaites.
C'est ça. Et là, on est à 8. Est-ce qu'on peut mettre fin à cette série face
au Rennes? Oui, je vois bien un nul, c'est pour ça. Peut-être un nul.
Un nul, ce serait une fin de série déjà.
Ouais. Dans le jeu, en tout cas, le dernier match n'est pas une victoire sur laquelle tu peux capitaliser.
Non,
ça c'est sûr.
Si ce n'est une certaine solidité, Loïc.
Voilà. Oui,
on fait un 0-0 contre des Rennais aussi en proie au doute. Ouais, on va se régaler. Ça va être sympa.
On peut demander à Anthony dans quelles circonstances il écoute le podcast. J'aime bien savoir ça.
Ah oui, dans ton bain ou dans ta voiture.
T'écoutes sans contrôle toutes les semaines. Comment tu écoutes?
Alors, toutes les semaines, ouais, carrément. Et c'est souvent après le taf, le mardi en rentrant, quoi.
Dans votre travail le mardi alors.
Absolument.
Moi j'ai croisé un joueur de tennis qui m'a dit Ron Guat c'est du podcast, mais je m'endors toujours en vous écoutant le mardi soir. Donc, il va pas au bout du podcast.
Par contre il aime beaucoup cette anecdote.
Johnny. Je salue Johnny, mon partenaire de tennis. Merci beaucoup Anthony.
Merci Anthony.
Salut, merci
Anthony.
À vous. Et merci.
Salut. Éclate-toi bien avec tes places VIP pour NH8. Il y a un petit resto en plus, hein, des places, tu sais.
Ah bah au top. Formidable.
On vous soigne bien les copains qui nous écoutaient. Allez messieurs, on s'intéresse à la Beaujoire qui fête ses 40 ans.
David Félix. Lippo, Pierre Arnaud Barre, Simon Rongoat, Loïc Folio. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
La Beaujoire fête ses 40 ans cette année. On en parle avec l'auteur d'un bouquin, Alexis Vergerot.
Je me souviens des soirs de danse.
Tony.
Dit Forban.
Souvenir, non. Souvenir.
Mais
souvenir.
Oui, mais oui, Rick Folio. Bien sûr. Attention, c'est là.
Souvenir, souvenir.
Ah, vas-y, non, je te vois bien, c'est là-dessus. Comme...
Ah bah oui, oui. Mais il fleure
mille baisers. Ça twist hein, chez les bars, c'est vraiment
c'est vraiment une passion.
Toutes les époques, hein. Quel talent. Bravo Loïc qui remporte le quiz hein, sur l'ensemble de l'émission. C'est du grand folio aujourd'hui. Il vient de sortir un livre que vont s'arracher les fans des Canaries. Il était une fois à la Beaujoire, 1984-2024. Alexis Vergerot nous rejoint dans ce podcast. Salut Alexis.
Salut Simon, salut à tous.
Salut.
Un livre qui a reçu un bel accueil hein, de la part des supporters. Tu peux peut-être nous raconter déjà d'où t'es venue l'idée. T'as regardé dans ton calendrier il y a combien, 2 ans, 3 ans. Voilà, on aura 40 ans de Beaujoire dans 2-3 ans, comment tu es parti sur cette idée-là?
Oui, c'est ça, j'ai lancé le projet début 2022 avec la perspective des 40 ans. 2 ans ne semblait pas de trop pour raconter ce stade, raconter 40 ans d'histoire, de souvenirs, d'émotions, d'anecdotes, sous tous ces aspects, hein, pas seulement le FC Nantes, mais parler aussi rugby, foot international, Coupe de France, ouais. Concert.
Et tous les grands spectacles qui se sont déroulés à la Beaujoire. Alors, on imagine que tout le monde te pose cette question-là, mais parmi tous les interlocuteurs, il y en a beaucoup, hein, beaucoup d'interviews, c'est vraiment très chouette. Lesquels t'ont le plus ému ou le plus marqué à travers des anecdotes sur la Beaujoire ?
Forcément, Reynald de Noëx, l'entraîneur du titre de champion en 2001, qui me dit cette belle anecdote en me disant que son plus beau souvenir de la Beaujoire, c'est 6 mois après le titre, seul chez lui. Donc là, je lui demande, je comprends pas sur le moment, mais il me dit en fait qu'il n'avait pas pris conscience de l'envahissement le 12 mai 2001 contre Saint-Étienne. Et c'est en discutant avec un passant un jour dans la rue qui va lui donner une cassette et il va lui dire « Mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait il y a quelques mois ?» Il dit « Non, Benoît, c'était un amoureux du jeu et il prenait pas forcément, il n'avait pas forcément conscience de tout ce qui se passait autour du terrain. » Et là, il est seul chez lui, il va mettre la cassette, il va voir l'envahissement de terrain, il va prendre une claque. Il va se dire « Ah ouais, on a fait ça il y a 6 mois à la Beaujoire, donc forcément un bel échange, mais il y en a plein. » Il y a Charles Guétry qui me raconte le premier acte de l'histoire de Canal+. Ouais, il y a,
contre
il y a
Monaco.
Ouais, c'est ça. Il y a Védaïdouzi qui parle de l'épisode Salah et du match hommage. Il y a plein d'acteurs qui racontent leur Beaujoire et avec beaucoup d'émotion.
Je sais que mon témoignage t'a ému aussi.
Ouais, parce que t'as pas cité David Filippo. Malheureusement, c'était un témoignage assez faible. Il apparaît assez peu.
Effectivement, on a David Filippo et même Simon Rengouat.
Voilà, bah oui. Quand même.
Ouais, une petite quichenette à Valdemarquita, je crois.
Oui, c'est bien apprécié. Bon.
Messieurs, votre Beaujoire à vous, puis Alexis va pouvoir interagir parce qu'il a plein d'anecdotes aussi. Quel moment marquant dans votre jeune carrière pour certains d'entre vous, un peu plus expérimenté pour d'autres, de la Beaujoire ? Loïc ?
J'en ai plusieurs, évidemment, notamment celui que vient d'évoquer Alexis avec l'envahissement du terrain après le match contre Saint-Étienne, celui contre ouais. Metz aussi.
Moi, je suis sur la pelouse en 2001.
Moi aussi.
Ouais, bravo, il t'en reste un morceau, je crois, chez toi.
Ouais,
en termes émotionnels, il y a eu tellement de matchs. Moi, je dirais professionnellement, c'est peut-être le premier. Moi, je crois que je commente un Nantes-Auxerre pour Radio Nantes ouais. à l'époque avec
l'ancêtre d'East West.
Il y a Christophe Coquard, exactement, l'ancêtre d'East West. Et c'est surtout une époque où on avait la chance d'aller dans les vestiaires faire notre boulot.
Quel
encore
bonheur.
Après le match.
Et on vous écoutait.
Et on était en direct.
En short,
après,
en maillot,
tu vois, sur Radio Nantes, après, on était en direct dans les vestiaires. On avait notre ligne spécialisée, notre LS. Et on se baladait avec un fil qui faisait 20 mètres. Et on allait voir Endoram qui se faisait masser par Daguillon, Jean-Claude Soudeau quand il acceptait de répondre en direct. Michael Andreau, Casagrand, enfin tous. Quoi. Voilà,
Pab.
Notre époque.
Bah, professionnellement, j'en avais parlé dans le podcast, l'excellent podcast sur Emiliano Sala. C'était le match contre
le match hommage
Saint-Étienne. Voilà, ouais. Où, voilà. Je trouve que ce stade, il est incroyable parce que t'as vraiment une communion quand dans les grands événements, t'as une communion vraiment forte. Et sinon, en supporter, moi, c'est tu peux t'évoquer. Bah, j'étais sur la pelouse en 2001. J'étais aussi sur la pelouse et en Loire en 2005. Ce que j'adore dans ce stade en tant que supporter, c'était surtout quand j'étais ado, c'était la montée des marches.
C'est
comme Georges Clemenceau qui dit que le meilleur dans l'amour, c'est la montée des marches. Et quand tu montes dans la tribune, c'est ça. Mais oui. Et en fait, tu découvres la pelouse.
C'est surprenant, c'est comme les choix de Comboiré. Il nous a pas habitués à ça, donc pas fondé
sur rien. Et ce qui est incroyable, c'est moi j'ai 2005 plus marquant que 2001 encore, parce que Nantes était quasiment condamné, il fallait qu'il y ait d'autres résultats
2006.
Favorables. Non, 2005. Et en fait, tu n'avais pas Internet à l'époque, et donc les gens écoutaient la radio, et Je me souviens qu'il y avait Caen Istres, je crois. Et donc, tu avais des gens derrière qui étaient avec le transistor qui disaient « Ouais, il y a but, mais ça veut dire qu'on est maintenu. » Et je me souviens encore de Landreau qui est en balle dans son but, qui se retourne vers la tribune en disant « C'est bon, c'est bon. » Et là, on dit « C'est bon, ils peuvent sauter de joie. » Et tout le... Enfin, moi, ça, c'est incroyable.
David.
95, alors là j'étais pas journaliste, hein, forcément.
Moi aussi, 95.
95, oui. Nantes.
Moi je suis abonné en Loire, Nantes.
Non, moi jamais en Loire, donc j'étais en. Pardon, je suis déjà allé en plus.
Oh, mais il est déjà allé en Loire, oui. Mais incroyable.
Arus. Avec un match exceptionnel, un gardien danois.
Exactement, 10 sur 10 dans l'équipe. Oui. Winsfeld, un truc comme ça.
Il est resté 5 minutes, et pourquoi vous criez là? On peut pas voir le match.
Asseyez-vous.
Arrêtez avec les fumigènes là. 95, Nantes-Cannes. C'est le dernier match.
C'est le dernier match.
Je suis avec mon père au stade et un copain. Et je me souviens des Nantais qui allaient quitter la pelouse, qu'ils avaient peur de l'envahissement. Donc je crois que Cannes avait marqué un but juste à la fin. Parce qu'en fait, il y a des joueurs qui étaient quasiment sur le côté.
Les spectateurs étaient bord de ligne, David.
Voilà, donc,
on était tous bord de ligne. Ouais. J'étais en loi, on était bord de ligne et on était prêts à envahir la pelouse.
Prêts à envahir, donc ça, c'est 95.
Mais de joie, évidemment.
Ouais. Et 2005, le maintien de le but de Diallo. Pour une raison simple, c'est que c'était peut-être la première fois que j'allais sur la pelouse. J'ai bu un Ricard avec Kécherou et Alexis Thébault après le match.
Qui s'en fout
c'est une anecdote marrante. Non,
t'as pas vu
J'ai pas souvenir de l'envahissement de pelouse en 95.
Ah, si,
en revanche,
à Cannes, c'est sûr.
Ouais. Cannes, c'est sûr. Ouais. Ils avaient joué avec un maillot, avec un blason, les Nantais, bleu, blanc, rouge, avec les 7 étoiles de brodé. Ils ont joué une fois avec ce maillot.
Et tu l'as.
Et un autre logo aussi.
Oui, je l'ai.
Il l'a, regardez-le, je sais qu'il l'a ce maillot. Oh, magnifique. Ouais. C'est vrai que cette année 95, on va redonner la parole à Alexis, ce titre de champion qui vient de nulle part à l'époque. Alors moi, je suis ado aussi et je ne sais pas ce que je vais manger derrière à suivre le FC Nantes. C'est que ça paraissait normal de voir Nantes en haut, de voir Nantes européen, de voir la France qui avait son regard tourné vers le FC Nantes. On marchait sur l'eau, mais on ne savait pas ce qu'on allait vivre derrière. Elle en a vécu des choses de la Beaujoire, Alexis. Hein.
Oui, énormément. Et vous parliez de 94-95, c'est pour beaucoup d'acteurs, en tout cas, la plus belle saison à la Beaujoire, hein, la saison du rêve, du tarif maison, les matchs qui étaient gagnés avant d'entrer sur le terrain.
C'était 3-0 le tarif maison pour les jeunes qui nous écoutent.
Ouais, c'est ça. Et ce que je raconte dans le livre aussi, c'est l'évolution des tribunes et parce que la Beaujoire, les premières années sont difficiles. La presse se demande même si la Beaujoire n'est pas maudite. Car quand on voit les résultats les premières années par rapport à Sopin, c'est un peu la dégringolade. Et on a à partir de 92-93 cette lente remontée qui va nous amener jusqu'au titre de 95 avec cette nouvelle génération qui arrive, le début de l'émerveillement sur le terrain et ces supporters qui vont commencer à s'approprier le stade. Mais à ce moment-là, on parle encore de spectateurs. Le spectateur un peu exigeant, connaisseur, qui vient pour le spectacle, l'événement en fait. Et aujourd'hui, en tout cas depuis la remontée en 2013, ce qui est intéressant, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on vient à la Beaujoire indépendamment, on va dire, du contexte, du match. Et aujourd'hui, on a des supporters presque, enfiévrés, aveugles, qui viennent pour vivre et faire la meilleure ambiance possible, indépendamment du jeu,
avec,
du spectacle.
Avec une interview de la Brigade Loire. Alors là, c'est exceptionnel, parce que bravo d'avoir réussi à interviewer la Brigade Loire dans ce bouquin de manière anonyme. Mais oui, David.
Il y a David qui témoigne d'ailleurs dedans. Il est BL depuis très longtemps.
Non, moi, j'ai eu la chance de connaître la Beaujoire à partir de 92, d'y aller régulièrement. Est-ce que tu as aussi le sentiment que on a vécu une période exceptionnelle en 94-95 en termes de jeu, mais au niveau de l'ambiance, j'ai envie de dire que la Beaujoire a pris une autre dimension depuis 10-15 ans, depuis la remontée. Il n'y a jamais eu... souvenez-vous, les ambiances contre Karabakh et Olympiakos. Moi, j'ai rarement vu... entendu la Beaujoire exploser comme ça. Et il n'y avait pas ça en 94-95, alors qu'on voyait quand même un spectacle.
Il y avait de belles ambiances quand même. C'était pas le néant. Il y avait les Young Boys. C'était pas le néant non plus. On va pas réécrire l'histoire.
Non, c'était pas le néant.
Et
c'était moins puissant.
Et c'était pas unifié. C'était dans le centre de la tribune. Maintenant, c'est toute la tribune.
Il en est question, Alexis, dans le livre de ça.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est ce que je disais. Évidemment, on est passé de spectateur à supporter, et je suis plutôt d'accord. Beaucoup d'acteurs, en tout cas interrogés, eux citaient plutôt ce basculement. En tout cas, ce basculement à partir de la remontée en 2013, c'est aussi le cas de la Brigade Loire qui parle dans le livre, et encore plus vraiment avec la Coupe d'Europe, cette parenthèse enchantée en 2022, 18 ans après le dernier match européen à la Beaujoire. Et là, c'est exceptionnel ce qui se passe à la Beaujoire avec des ambiances jamais vues, hein, contre l'Olympiakos, contre Karabakh, même contre la Juve, malgré le scénario, avec cette Beaujoire qui tremble littéralement. On l'a même vu en tribune Loire avec des quelques secousses qui ont été un peu ressenties. Mais ouais, c'est inédit et c'est ce que disent aujourd'hui les acteurs. Ils viennent à la Beaujoire pour vivre un moment, en fait, se retrouver tous ensemble. C'est un lieu de rencontre, un lieu social. C'est la sortie du week-end et c'est aujourd'hui l'une des plus belles ambiances en France. Hein.
La Beaujoire chante ce jour où chacun est tombé amoureux du Nantes FC. Mais être amoureux, c'est aussi s'intéresser à ce qui s'est passé avant dans la vie de l'autre, et notamment dans cette vie du stade de la Beaujoire. Et c'est vrai que moi, j'ai appris des choses super intéressantes des années 80, où à l'époque, je ne connaissais pas bien le FC Nantes. Tu racontes les épopées européennes, Nantes est en Coupe de l'UEFA, notamment à l'époque. J'ai envie de savoir quelque chose, parce que tu racontes tout, mais tu ne nous dis pas, toi, quel est ton moment fort, préféré ou favori à la Beaujoire.
Je n'ai pas connu les plus belles années de la Beaujoire. Je les raconte dans le livre, évidemment, avec le regard et les témoignages d'un maximum d'acteurs. Moi, mon premier match, c'est en 2004. Donc, c'est le début de la chute, on va dire, en tout cas, qui est déjà bien entamée. C'est un an de Bastia, c'est août 2004. Et c'est un peu ce que disait Pierre Arnaud. C'est le souvenir, c'est cette montée des marches. J'arrive dans le stade avec mes yeux d'enfant et tout de suite, c'est la claque, en fait. Je me rends compte de la grandeur de la pelouse, des tribunes, des chants qui retentissent. Et je me souviens pas du match, mais vraiment de tout l'environnement de ce stade. Et c'est ce que j'ai voulu aussi raconter dans ce livre, c'est que oui, un stade, bon, on raconte pas assez l'histoire des monuments, en fait. On parle beaucoup, il y a beaucoup de livres sur les clubs, sur les anniversaires, dans le cas du FC Nantes, mais on rend pas assez, en tout cas, hommage au lieu. Et le lieu de la Beaujoire, c'est un lieu qui fait partie aujourd'hui du patrimoine nantais, c'est un monument pour les supporters nantais, et c'est un lieu, c'est ce que dit Landreau dans la préface aussi, c'est vraiment un lieu de retrouvailles, un lieu de
mais
de
même partout en France, hein. Même partout en France, parce que quand à chaque fois qu'on croise les confrères des autres clubs qui viennent à la Beaujoire, ils disent tous que la Beaujoire, en France, c'est un stade qui compte, c'est un stade à part, c'est un stade où ils aiment venir.
Pour l'ambiance, pas, mais aussi
oui, mais
parce que l'architecture est belle.
L'architecture,
il a une tronche, ce stade. Voilà, il était moderne avant les autres. Et ça fait partie des débats au moment du projet Yellow Park, de dire c'est vrai qu'on a un beau stade.
D'ailleurs, Alexis, peut-être dernière question, mais tu as essayé d'avoir Valdemar Quitta, parce que c'est vrai que c'est le président depuis presque 20 ans, 17 ans en tout cas.
Oui, 17 ans, je dirais.
17 ans, je dirais. tu as essayé de l'avoir, parce qu'il y a eu ce projet Yellow Park dont tu parles évidemment dans le livre.
Alors pour le projet Yellow Park, donc j'ai contacté Luc Delatour, le responsable du projet de stade au sein du FC Nantes, pour avoir sa version des faits, comme j'interroge également de l'autre côté des riverains et des personnes qui étaient opposées au projet. Donc voilà, Luc Delatour n'a pas souhaité s'exprimer, considérant que le dossier Yellow Park était définitivement clos de son côté. Et concernant Valdemar Quitta, voilà, je n'ai pas souhaité l'interroger. Okay. Je voulais que le livre reste indépendant du FC Nantes et de la direction actuelle.
Bon, ce qu'on peut dire aussi, Alexis, c'est qu'au-delà du FC Nantes, il y a eu des beaux moments de sport avec l'équipe de France. Hein. On se souvient évidemment de l'Euro 84. Le record d'affluence, c'est un France-Belgique. Il y avait quasiment 52 000 personnes, je
c'est
crois,
le premier
à peu
match.
Près. 52 000 personnes à la Beaujoire.
Il y a eu du rugby aussi.
Il y a eu du rugby avec un France All Black.
Coupe du monde 98, les amis. Moi, j'ai
été
à la Beaujoire.
Coupe du monde 98. Oui, mais il n'y avait pas l'équipe de France.
Espagne-Nigeria, le but de Sende Olise,
Brésil-Danemark.
Oui, Zareta.
Et puis, le France, par contre, n'est pas officiellement le premier match de l'histoire de la Beaujoire. C'est le Nantes-Roumanie.
Oui, mais c'est le record d'affluence.
Oui, c'est le record d'affluence, par contre, effectivement. Le Nantes-Roumanie qui a été oublié par beaucoup d'acteurs. C'était le 8 mai 84. Le seul souvenir des acteurs, c'est qu'il faisait un froid de canard ce jour-là. C'est de ce jour, on va dire, que le stade a eu cette réputation d'être le stade des courants d'air. Mais par contre, le France-Belgique, un mois après, oui, c'est ce que me dit Bertrand Demann, c'est le jour de naissance de la Beaujoire. C'est ce jour-là, c'est l'émerveillement, c'est le triplé de Platini. Il y a Giresse et Fernandez qui parlent dans le livre. Ils me disent, oui, on trouvait sa construction vraiment merveilleuse. Et voilà, c'était magnifique ce jour-là pour tous les spectateurs.
Et puis Alexis, entre nous, les deux plus beaux moments à la Beaujoire.
Voilà, je sais où il va.
Mais quand même, Alexis, t'en as même pas parlé, les Herbiers.
Mais oui, parce que
les Herbiers, la Vendée.
Pire moment de l'histoire du stade, hein, la Vendée qui envahit la Beaujoire.
Quart de finale et demi-finale, c'est
ça. Si elle n'existait pas, il faudrait la Vendée, comme on dit. Hein.
Excellent.
Merci. On va rester là-dessus, c'est très bien.
C'est sans doute le seul défaut d'Alexis Bergeron, c'est d'être Vendéen.
Les Vendéens, c'est vraiment les spécialistes des jeux de mots médiocres.
La Vendée et la Roche-sur-Yon.
Bon, c'est vrai que les Herbiers, c'était chouette. Il y a des Carquefou en Coupe de France. On pourra en parler pendant une heure de la Beaujoire, ce stade qu'on aime tant.
En tout cas, un livre très sympa, franchement. Moi,
Alexis Bergerot, préface de Michael Landreau. Il était une fois la Beaujoire aux éditions Ouest France. Merci beaucoup, Alexis. Et tu es en dédicace bientôt à Nantes ?
Alors, à Nantes prochainement. Alors, déjà, il y a le Printemps du Livre de Montaigu ce week-end.
En Vendée,
et
très bien.
Fin avril, début mai, il y aura Atlantis. C'est la FNAC de Nantes.
Très bien.
Et puis Agora, la Roche-sur-Yon bientôt aussi, je crois.
Et Agora, la Roche-sur-Yon.
Et si vous voulez aller rencontrer Alexis pour parler du bouquin et l'offrir autour de vous, c'est une excellente idée. Merci beaucoup, Alexis Bergerot.
Merci à vous, merci beaucoup.
Salut. Et messieurs, on se dit à mardi prochain, on débriefera le derby.
Un autre bouquin, un petit coup de pub sur un autre
Vendéen,
livre.
J'imagine également. Oui, voilà,
effectivement, un siècle de football en Vendée, écrit par Mathieu Degnaud. C'est vraiment super sympa. C'est un vrai gros travail de recherche d'archives. Il y a tous les clubs vendéens quasiment, il y a des anecdotes sur tous les clubs vendéens, c'est vraiment un super bouquin.
Voilà. Rendez-vous mardi prochain les copains pour débriefer ce Football Club de Nantes Stade Rennais, le derby c'est samedi. Bonne semaine, salut.
Salut.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.